Vous écoutez
RMC.
RMC.
Jimmy Brown, l'after foot face au Tchad. Bah,
bah. Un match contre. C'est ça, ouais, compte à rebours qui peut s'étirer dans le temps et qui peut
profiter. Compte à rebours qui peut s'étirer dans le temps, alors laisse-moi comprendre.
Le tic-tac.
Ah, tic-tac, quoi, ouais, qui peut.
Ouais, ouais, c'est d'accord. Ça.
Non, c'est plutôt un joueur qui a égayé sa palette, comme on dit avec Mourinho.
Élargi peut-être.
Ouais, et élargi.
20h-22h, Génération After.
Simon Dutin.
Et le best-of, les archives de Génération After s'enrichit chaque soir, chaque émission, peut-être encore ce soir, en compagnie de Kevin Diaz, Jimmy Brown, Elton Mokolo. On est ensemble en direct jusqu'à 22h avant de passer la main à Nicolas Jamin pour l'After en compagnie de Florent Gautreau, Daniel Riolo, Gilles Vestière, ancien arbitre international, qui sort un ouvrage qui rassemble tous ses grands souvenirs d'arbitre international, sera l'invité de Nico. Il aura évidemment beaucoup de souvenirs à partager. Si vous avez raté la première heure de l'émission, je vous invite à la podcaster. Dès que vous aurez un petit peu de temps, on s'est projeté avec Jimmy, Elton et Kevin sur ce mondial qui commence dans 9 jours seulement, à peine, et dont vous ne manquerez rien sur RMC, la radio officielle de la Coupe du Monde. Les favoris, les outsiders, la Coupe du Monde des entraîneurs nous a fait remarquer, Elton, un casting de luxe, de choix sur les bancs, ce qui a un petit peu surpris notre ami Kevin.
Un avis au combien tranché de la part
de tranché, là. Là, c'est l'avis tranché de l'année.
Sa chambre depuis.
Écoute, c'est pas loin, mais je t'en laisse soin de penser ça.
Voilà, on se régale évidemment. Bon esprit comme d'habitude. On va revenir un petit peu en France parce que. Quelques jours seulement après avoir assuré son maintien en Ligue 1, l'OGC Nice se projette déjà vers la saison prochaine. Elle sera forcément différente en termes d'objectifs, de moyens.
Vous souhaitez pour les supporters de soi.
Oui, mais peut-être même en visant des objectifs avec des moyens peut-être recalibrés. Qui sait, d'autres personnes sûres en dehors du terrain. On rappelle qu'à l'été dernier, le gym disputait les barrages du tour préliminaire de Ligue des Champions.
C'est ça, oui.
Éliminé par Benfica, mais après une magnifique
C'est d'ailleurs ce qu'a raconté Dante dans ce fameux discours-là, qui deviendra fameux, en tout cas je le sais, à Nice. Parce que c'est un discours extraordinaire, très émouvant et très juste.
Avant le barrage retour, là.
Juste avant le barrage retour, il dit justement que voilà, pour lui, c'est une fierté et qu'il fallait absolument laisser ce club à cette position.
Et on se souvient qu'on était un petit peu inquiet quand même, hein, en début de saison dernière pour Nice, mais on les voyait pas quand même faire une saison aussi compliquée, puisque quasiment un an plus tard, une 16e place en championnat, finale de Coupe de France, perdu face à Lens. Alors Nice, c'était un tournant, messieurs, on va en parler avec notre correspondant RMC Sport sur la Côte d'Azur, au plus près de l'actu des Aiglons, Maxime Tilliette, qui passe une tête dans Génération After. Salut Maxime.
Salut Simon, Kevin, Elton, Jimmy, bonsoir.
Salut Maxime. Salut
Maxime. Maxime qui est le guignard d'or de cette saison, quand même, il faut le dire. Il avait Nice et Monaco en début de saison, ouais. Barrage Ligue des Champions, Exactement. Ils finissent l'un 16e, ils allaient descendre, les autres même pas en Coupe d'Europe.
Ouais.
Bravo Maxime.
Guignard jusqu'au bout, ouais. Je l'ai croisé.
En plus, il allait te poudrer à Cannes, horrible.
Je l'ai croisé à Cannes pour le match de la montée.
C'est une horreur. Ne croisez pas Maxime Tilliette, il peut vous arriver des soucis.
Le guignard, mais c'est quand même lui qui a le plus beau bronzage de toute la rédaction foot de RMC. Maxime, avant de se projeter sur la suite, sur les chantiers nombreux de l'OGC Nice, raconte-nous un petit peu les derniers jours du côté de Nice, du club, et notamment depuis ce maintien en Ligue 1 arraché face à Saint-Etienne.
Bah forcément un immense, immense, immense ouf de soulagement après ce dénouement exceptionnel, malgré un barrage retour assez compliqué. L'entame était quand même très très laborieuse pour le gym. Les événements ont été contraires, avec un rouge non accordé sur une faute sur Melvin Barr, un pénalty un peu tombé du ciel qui remet Saint-Etienne dans le match. Et derrière, malgré ça, ils mettent 3 buts en 10 minutes et ils se sauvent, et ça permet de célébrer Dante, vous en parliez, c'est très important. D'ailleurs, le club, depuis le vendredi, travaille pour justement célébrer une nouvelle fois Dante, mais avec du public, parce que c'était quand même un peu triste de le voir quitter la scène de la sorte sur un coup de coude, la bouche en sang, qui plus est. Donc voilà, le 18 juin, des festivités seront prévues dans Nice, autour de Dante, en sa présence. On sait d'ailleurs, désormais c'est officiel, qu'il entraînera la saison prochaine, ouais. U23 du Bayern Munich. Et puis sinon, au-delà de ça, en parallèle, il y a ce fameux fonds américain dont on ne connaît pas encore l'identité, mais qui discute avec Ineos. On nous fait comprendre que rien ne se passera d'ici la mi-juin. On ne sait pas vraiment s'il est question d'une vente partielle ou totale dès cet été. Il est possible que ça se fasse progressivement. C'est assez flou. Très peu d'infos filtrent à ce sujet. Mais quoi qu'il arrive, il faut reconstruire, repartir quasiment d'une feuille blanche. Parce que voilà, aujourd'hui, c'est la mission de Maurice Cohen qui est revenu cet hiver au club. Il y a Jean-Claude Blanc aussi qui l'aide dans cette mission, le PDG d'Ineos Sport. Jean-Pierre Hébert, lui, il l'avait annoncé à son retour, sa mission s'arrête maintenant. Florian Maurice et le gym se sont séparés d'un commun accord il y a quelques heures, puisque ça a été officialisé et communiqué hier soir. Donc désormais, la suite, pour lui succéder à la direction sportive, on parle avec plus qu'insistance de Geoffrey Moncada. Alors, c'est pas encore officialisé, mais il est quand même déjà très actif. Pour vous le présenter en deux mots, il a 39 ans, il est originaire de la région et surtout il vient de sortir de 8 années à l'AC Milan.
D'où il vient de se faire vider comme un malpropre par le boss. C'est pour ça que je dis comme un malpropre parce que il n'était pas quand même le seul responsable.
Responsable du recrutement, directeur technique, il a eu pas mal de taf. Il était aussi avant ça pendant pas mal d'années à Monaco, donc il connaît le contexte. Voilà, on va faire Maurice Cohen va rappeler aussi Roger Ricord qu'il a eu sous ses ordres à l'époque jusqu'en 2009 comme dirigeant au gym. Roger Ricord qui a joué aussi sous le maillot rouge et noir. Donc voilà, vraiment on reconstruit totalement sur le banc aussi, parce que maintenant la première mission, le but c'est de réorganiser tout ça sans se soucier de la potentielle vente. Donc la première mission c'est de choisir un entraîneur, puisque Claude Puel, merci pour le maintien, mais ça a quand même été très laborieux. Donc qu'il y ait vente ou pas, aujourd'hui on veut plutôt écrire l'avenir avec un Alexandre Dujeu ou un Didier Digard, qui sont les deux profils qui ressortent le plus. Pour Bruno Genesio, c'est aussi évoqué, mais on sait qu'il y a quand même une plus forte concurrence. Et puis alors là, l'effectif, entre les gros salaires, les fins de contrat, les joueurs prêtés, ceux qui déçoivent, et en plus il y en a qui cochent plusieurs de cases, comme un Sofiane Diop ou un Mohamed Ali Chow, qui sont finalement des déceptions. Boudaoui, qui a un an de la fin de son contrat, comme Sofiane Diop aussi, c'est des joueurs qui malgré tout gardent une belle valeur marchande, et c'est peut-être le moment aussi pour eux de se lancer vers un nouveau challenge dans leur carrière.
Les dernières infos de l'OGC Nice dans Génération After, grâce à Maxime Tidiette, notre correspondant sur la Côte d'Azur. Messieurs, beaucoup de choses dans ce que nous a dit Maxime, parce que ça va bouger, on l'a entendu, au niveau des investisseurs. Alors, est-ce que Ineos va passer la main, ou est-ce que Ineos va juste ouvrir un petit peu le placard, le frigo, pour partager du changement dans le staff, du changement donc dans l'organigramme, et du changement chez les joueurs.
Ce qui interpelle juste, pardon, c'est le timing qu'évoque Maxime court. Quand même, parce que si tu passes la main mi-juin, s'il y a potentiel vente mi-juin, comment on peut imaginer qu'un Moncada soit nommé avant, qu'un nouvel entraîneur soit nommé avant, alors qu'il y a d'autres actionnaires qui arrivent? Je pense que déjà c'est un peu une zone grise, cette histoire de timing.
Mais pour moi c'est le point le plus important, parce qu'aujourd'hui quand on parle de Nice, ce serait illusoire de penser que le terrain est le plus important. Non, pour moi, la chose la plus importante, c'est la gouvernance niçoise, notamment l'organigramme qui va être défini, déjà par rapport à l'actionnariat, l'investisseur qui pourrait arriver ou pas, le directeur sportif, et ensuite l'entraîneur. Il faut que Nice puisse se reconstruire petit à petit, et avec de la bonne compétence, de manière à ce qu'il y ait une influence directe sur le terrain. Parce qu'aujourd'hui, parler de Nice, notamment par rapport à des considérations terrain, c'est un sujet qui est annexe, et c'est fou de se dire ça, parce qu'on est début juin et que les équipes vont reprendre l'entraînement dans un peu plus de 3 semaines. Mais aujourd'hui, on en est là à savoir qu'il faut reconstruire un club, ou plutôt sa direction.
Maxime, le fait qu'il y ait déjà quand même autant de pistes là, comme celles que tu as énoncées dans les changements à venir, que ce soit le staff, l'organigramme, est-ce que c'est quand même pas le signe que Ineos va pas totalement se désengager tout de même?
Il y a des signaux qui pourraient laisser penser ça, d'autres non.
Après, t'es obligé de prévoir, ça. Que tu vends ou pas, t'es obligé de prévoir le scénario où tu restes, en fait. C'est criminel. L'inverse aurait été, ça aurait été un manque de professionnalisme total. Et on sait qu'Ineos, ils ont pas tout fait bien. La moindre des choses, c'est d'essayer de faire comme si t'allais rester là.
Ou d'essayer de proposer un projet clé en main à des futurs propriétaires. C'est également une solution.
Qu'est-ce que t'en penses, toi, Maxime? C'est vrai, mais on nous a aussi longtemps dit que une fois le maintien acté, c'est bon, ça se débloquerait pour ces discussions-là. Est-ce que si Nice avait sauvé sa peau plus tôt, bien avant les barrages, le changement de cap aurait déjà été opéré? On ne sait pas, parce que finalement, là, Nice s'est sauvé in extremis, mais c'est sauvé, et on nous dit quand même que il y aura quand même un petit délai, une période durant laquelle il faut s'attendre à ce qu'il ne se passe pas grand-chose, c'est-à-dire jusqu'à la mi-juin. parce que bon, bah, tout n'est pas encore finalisé. On sait que c'est toujours compliqué ce genre d'opération. Donc voilà. Et en effet, il faut forcément prévoir le coût. Là, en l'état, on prépare un club avec un budget autour des 60 millions d'euros. Donc c'est à peu près ce que Lens avait cette saison pour préparer la saison prochaine. Non, parce que l'été dernier, on tape souvent sur Ineos et a raison. Mais malgré tout, Nice faisait partie des clubs qui a réussi à le plus réinvestir l'été dernier, malgré les départs.
Comment ils ont réinvesti? C'est ça le problème, tu dépenses ton argent aussi.
Carlos, il y a eu des erreurs, évidemment.
Il y a eu quasi que des erreurs.
On avait souligné qu'en effet, le recrutement...
C'est quoi le déficit structurel?
Bon, là, j'ai pas le détail.
Oh là, c'est la question.
Kevin. Il a quelques idées, Kevin.
T'es sur le dos.
Il est venu te chercher sur le déficit structurel comme ça, depuis
non, mais c'est aujourd'hui, blague à part, c'est très important. Ça veut dire que faut savoir à quel point le GC Nice va devoir vendre. Qui dit vendre, il n'y a pas beaucoup de valeur marchande dans ce club. Donc, qui dit tu ne peux pas vendre, et bah, du coup, va falloir que le nouveau propriétaire réinjecte beaucoup. C'est pas que acheter le club, c'est aussi, combler le déficit.
Messieurs, je vous coupe. Je vais voir Eric Salio. Eric, c'est la mine déconfite de Jimmy Brown qui m'a incité à venir te voir. Que se passe-t-il, Roland Garros?
Il est bon, ce tchèque.
Il nous ferait presque douter.
Ce tchèque. 5-4. 45 pour Jakub Mensik, a profité d'une petite faute de João Fonseca pour prendre un break au milieu de cette manche, et derrière il a pas molli. On va voir si dans quelques secondes il va boucler cette manche après seulement 41 minutes. J'avais un petit coup de gueule, mais là il est passé parce que les tribunes VIP étaient un peu dégarnies, mais y est, les gens ont mangé, tout est rempli, on est rassuré. Balle de 7, donc il se commence par un revers bien décentré, donc première balle de 7 sauvée par João Fonseca, 40-30. On va voir s'il peut quand même avoir du répondant, João. Hein. Mentalement, il a montré d'excellentes choses contre Novak Djokovic, parce qu'on n'en a pas parlé assez, je crois. La qualité de ce match était juste exceptionnelle. Mais un grand chelem, il faut enquiller les matchs. Et c'est vrai qu'il commence peut-être à accuser la fatigue, le jeune Brésilien. Attention, Mensik là qui monte au filet et qui conclut. 6 jeux à 4 avec une volée haute de coups droits. 6-4 en 42 minutes. João, faudra réagir très vite.
Tu vas encore dormir à 2h du mat, toi?
Non, ça va vite. 42 minutes, c'est très rapide, c'est parfait. Mais je me suis régalé la nuit dernière. Là, j'ai envie de me détendre à la fin des directs de la Night Session féminine. Hein. Merci les gars, au fait. Zéro intervention. Et je me suis dit, tiens, je vais aller voir le 4e set sur le Langland. J'ai pas pu quitter. C'était trop bon. J'ai quitté à 1h30. C'était génial.
Bon, formidable. En plus, tu croiseras peut-être Maria Sharapova au buffet. Oui. D'après Matt, j'imagine que la cote de João Fonseca vient d'augmenter, mon cher Jimmy, si ça intéresse tes amis par ailleurs.
Je suis pas sûr qu'il mette des sous en direct, là, Jimmy.
Je suis pas au courant. Non, mais je ne joue pas, moi. C'est un mythe, ça, Eric.
Ce sont des idées reçues, des bruits de couloir, ça. Alors. À tout à l'heure, Eric, la sensation brésilienne, João Fonseca, qui est donc mené 1-7-0 en night session à Roland-Garros par le tchèque Mensik.
On est toujours avec. À ta question, Kevin, sur le déficit.
Maxime Tillet, il a bossé pour la pause.
Il a passé Simon, il a relancé Eric 3 fois le temps que tu puisses chercher.
Merci, c'est bien joué. Non, mais pour citer nos collègues de Nice matin qui évoquaient 40 millions de déficit structurel.
C'est à ça que je pensais.
À compenser.
De toute façon, il n'y a plus de droit télé.
Ça t'évoque quoi comme chiffre du coup?
Non, mais c'est énorme, 40 millions. Ouais. Quand tu n'as pas de valeur marchande à l'intérieur de l'effectif, 40 millions, c'est beaucoup. Donc c'est aussi peut-être sur ce genre de choses que les négociations peuvent coincer.
Oui, Maxime, je rebondis sur ce que dit Kevin. Pas de valeur marchande dans l'effectif. En effet, comment.
Vas-y, t'as Jonathan Klose.
Qui peut rapporter de l'argent à l'OGC Nice? On parle de Diop, Mohamed Ali Chaud, Boudaoui.
Titulaire au mondial. Ça peut être pas mal. Il y a Antoine Mendy qui s'est quand même bien développé cette saison. Yevan Jouve garde une petite cote malgré tout. Il est arrivé contre 6 millions d'euros l'été dernier. Des Melvin Barr, Jonathan Klose, Ndaye Chimier, il faut qu'il se relance physiquement. Mais c'est un joueur qui a en plus déjà un salaire assez imposant.
Il y a le petit, son nom m'échappe, qui a été buteur en finale de Coupe de France.
Koulibaly,
c'est ça.
Koulibaly, mais faut miser sur lui et l'installer. Ouais. Et la tendance, c'est de faire
l'avenir n'est pas radieux quand même pour les Niçois. Quoi.
Mofi et Boga, ils appartiennent toujours au club, ils sont toujours sous contrat. Nice peut espérer tirer un peu d'argent de la vente parce que eux, ils.
la tendance est plutôt à ce que Jérémy Bogard reste à la Juve, parce que l'option d'achat était assez faible, autour de 4 millions d'euros, je crois, ou quelque chose comme ça. Et vu l'impact qu'il a eu sur le peu de rencontres disputées là-bas, il devrait y rester. En revanche, Terem Moffi, l'option d'achat à 8 millions d'euros, ça n'a pas convaincu à Porto, ça n'a pas été suffisant. Et pourtant, Porto a fait une très très bonne saison. Il y a eu des blessés en plus à ce poste-là, mais sur ces 6 mois là-bas, il n'a pas totalement convaincu. Donc, il doit revenir. Et le but, on a été très clair sur ce point-là à l'OGC Nice, c'est qu'il ne reporte plus le maillot du club. Donc il va falloir le sortir, mais il va falloir trouver les conditions. En tout cas, c'est sûr, ils ne rentreront pas dans leurs frais et la quasi trentaine de millions d'euros investis il y a de ça quelques années.
Et c'est ça, un Moffi, quand il arrive à Nice, c'est une sensation de la Ligue 1.
Il est
très cher.
Il le pique à l'OM, Marseille le voulait. Enfin, si c'est fait de l'Orient,
il y a la grande blessure aussi.
Il y a des performances qui ont été décevantes, mais par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, c'est la conséquence de ce que tu ne fais pas bien depuis quelques années, même si ça a été maquillé par une qualification en tour préliminaire de Ligue des Champions, maquillé par cette récente finale en Coupe de France. Mais le fait est que dans ton quotidien, dans ce qui montre quelle équipe et surtout quel club tu es, la Ligue 1, eh ben, t'as une forme de déclassement aujourd'hui.
Oui, personne
n'a. Non, mais oui, mais il nous a laissé pantois. quand il est aussi complet dans l'analyse, qu'est-ce que tu veux dire?
La vie est aussi tranchée.
Rien à redire, rien à rajouter.
Maxime, l'ambiance autour du club, du côté des suiveurs, des supporters que tu es amené à croiser au quotidien, il y a un peu de résignation.
Je suis content de voir cette saison se fermer et pouvoir repartir d'une feuille blanche avec quelqu'un, par exemple, comme Geoffrey Moncada, qui a travaillé dans une institution, si ce n'est la plus grande, dans l'univers du football, pour remettre un petit peu les points sur les i dans ce club, dans ce vestiaire. Et puis il y a de la tristesse aussi de voir par exemple le jeune Kyle Boudache qui aura eu sa chance bien trop tardivement à l'OGC Nice et qui du coup c'est compliqué de le retenir quand il a l'opportunité d'aller signer et de rejoindre l'Olympique Lyonnais où le projet est sans doute déjà bien plus clair que du côté de l'OGC Nice.
Ça, c'est une perte, hein, parce que Boudache est un sacré joueur et en plus malheureusement tu récupères pas de sous sur lui. Il aura été bon jusqu'au bout, hein. Il est buteur sur le barrage retour aussi.
Ça a été un enfant de la crise dans les moments compliqués, dans le moment compliqué pour l'OGC Nice, qui a réussi à entretenir un peu d'espoir, d'avoir des performances. Et malheureusement, même là, t'as pas une valeur marchande qui peut servir au club.
Ouais, c'est compliqué.
Bon, voilà, je crois qu'on a fait le tour. Maxime, on espère. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter la saison prochaine pour l'OGC Nice? Un maintien plus confortable?
Ah oui, je pense qu'il
va falloir le retour des ambitions.
Un peu plus haut que ça.
Il va falloir le retour des ambitions, Maxime. Tu peux pas poudrer tout le monde tout le temps. Il va falloir y aller.
Non, mais j'ai quand même eu mes clubs.
Franchement, t'as des clubs tranquilles.
Toi, c'est année impair, je crois. C'est année impair où ça performe chez toi. Là, c'est 2027, ça peut être pour toi. 26, 27,
on va voir. S'il y a un projet clair qui est redéfini, s'il y a un chef de navire à bord, ça peut fonctionner une nouvelle fois, on l'espère.
Bon, voilà.
Thiago Scorro, ça reste
C'est loin d'être fait, cette histoire.
Ah,
pour
le
coup, à Monaco.
On parle de Monaco, on précise, bien sûr.
On a fait 25 minutes, un peu plus au nord.
Oui, là, mec.
Non, mais il a eu un rôle quand même dans la venue de Philippe Louis c'est un atout pour Philippe Louis d'arriver dans un club où il y a un dirigeant qui peut faciliter les choses.
T'as l'impression qu'il fait sauter les entraîneurs pour garder sa place à chaque fois. C'est un réducteur. Il a mis Pocognoli en disant regardez, c'est moi qui ai ramené Pocognoli. Là, il leur fait 6 mois plus tard. Eh les gars, Philippe Louis, c'est moi.
C'est la montre religieuse.
C'est fou. Il arrive à tenir comme ça.
Viens, je vais te recruter. Allez, boum.
Après, d'un autre côté, Luis Campos, il avait choisi Galtier. C'était pas son meilleur choix, mais il a réussi à bien rebondir.
Il a bien rebondi.
Non, mais Philippe et Louis,
on parlera sans doute dans quelques instants.
Finit un peu sur l'AS Monaco, alors oui, tu dis que c'est un joli coup, Philippe et Louis.
Ça ressemble à un joli
d'accord,
coup.
Moi, je croyais aussi qu'à 18 heures, ça pouvait être un bon coup. Je croyais aussi que Pocognoli, ça peut être intéressant. Et au final, malheureusement, il n'y a rien d'intéressant au final parce que c'est très, très compliqué. Donc,
restez branchés à 22 heures. On a Damien Perrinel qui était dans le club pendant 4 ans.
Du coup, il n'y a plus de droit de réserve. On y va, on envoie.
Ah, il va tout envoyer, Damien, à 22 heures.
Ah ouais, tu me promets.
Tu seras là. Restez branchés.
Il a quitté récemment
il a été adjoint pendant 4 ans là-bas, 4-5 ans, je crois.
Non, mais c'est vrai que c'est un concept bizarre. Bah, Kevin, t'es en face, un concept bizarre. T'es fragilisé, t'es menacé, mais tu nommes un entraîneur.
Ouais, il aurait fallu qu'il y ait un droit d'inventaire, on fasse une remise en question globale avant d'annoncer des choses.
Mais après, Maxime, moi j'ai entendu que c'était plutôt Avinia, le dénommé Avinia, que je ne connaissais pas d'ailleurs, dont j'ignorais l'existence, qui a géré ce dossier un peu plus en direct.
Mais surtout qui a pris du poids dans les décisions, surtout sportives, depuis quelques mois, où voilà, Ribolovlev.
Mais c'est quoi son rôle dans l'organigramme?
Qui est cette personne, oui.
Il est directeur technique, Carlos Avinia, il était avant ça du côté du Cercle Bruges, donc le club détenu par l'AS Monaco en Belgique, qui se maintient depuis plusieurs saisons, qui fait des choses plutôt pas mal, où d'ailleurs le petit Eden Diop était prêté cette saison et devrait revenir cet été à l'AS Monaco. Mais voilà, c'est un profil assez jeune aussi, qui a sur le continent que vraiment cette expérience, parce que sinon avant c'était plutôt en Amérique du Sud. À lui de faire ses preuves désormais aux mains du côté de l'AS Monaco, avec un club aux ambitions européennes, et là en revanche ce sera à lui de faire les choix sportifs davantage, à moins que Dimitri Ribolovlev décide, un peu comme à l'AC Milan, de mettre un grand coup de chausson. Mais mon petit doigt me dit que s'il avait voulu le faire, il l'aurait déjà fait plus tôt. Et le fait d'enclencher un cycle avec un nouvel entraîneur montre que on devrait sans doute repartir avec le tandem Scuro-Avinia, mais avec un Avinia renforcé au niveau des décisions. Il a notamment contribué à l'avenue d'un nouveau directeur de la performance, puisque voilà, pour
le grand enjeu,
cette saison ratée, voilà, on a fait sortir à Monaco Yann Lemaire, qui était directeur de la performance depuis pas mal de saisons, et qu'il y a eu des saisons où physiquement l'AS Monaco était vraiment plus qu'au point. Cette saison, c'était pas le cas du tout.
Ah oui.
Mais donc on a fait appel à un ancien du Real Madrid, Javier Arnaiz, et dans cette décision-là, Carlos Avinia a eu un poids également.
Bon, en tout cas, on va suivre ça, évidemment, grâce à toi, Maxime, notre spécialiste Côte d'Azur, AS Monaco, OGC Nice, et puis Jet Set, évidemment, lorsque il en a le temps. Et bravo pour le coup de chausson. Hein. On adore, on apprécie. Bravo, Maxime, et merci encore d'être passé nous donner les dernières infos.
Salut, Maxime.
De l'OGC Nice. Petit détour par Roland Garros, Eric Salio. Est-ce que le jeune Fonseca réagit après la perte du premier set face à Mensik?
Il va rien lâcher, mais bon, c'est un peu tôt pour le dire. Il y a un partout dans le deuxième set, mais il mène 30-0 sur sa mise en jeu. Mais Mensik, c'est un mec qui fait quand même 1m96, qui frappe très très fort dans la balle. Il s'était révélé l'an passé en remportant le Masters 1000 de Miami, ouais, en battant Novak Djokovic. Djokovic, pardon. C'est pour Suzanne, ça. En finale. Mais c'est un mec qui est dangereux. C'est un mec qui est très dangereux et qui peut poser des problèmes à n'importe qui quand il est bien luné. Et c'est le cas, visiblement, lors de cette quinzaine de Roland. Donc 6-4, Mensik, un partout dans la deuxième manche.
Et ça tombe de haut au service. Ça met des sacrées tartes en coup droit. On aime bien ce Mensik, hein, également.
T'invites à venir, Simon, là, à Roland, et tu vas voir, ça fait un bruit sourd.
Oui, mais tu sais, moi, il y a des gens qui vont mieux que j'ai vu de croiser en ce moment.
J'ai un joyeux sanglier à te présenter.
Oui, voilà. On en reparlera, mais petite fierté, quand même, voilà, d'avoir été cité par nos vénérables confrères du Guardian. À tout à l'heure, Eric, pour la Night Session à Roland Garros. Vous le savez, je vous le disais, l'histoire des best-of, des génériques de l'after, de Génération After, elle s'écrit chaque soir, elle s'est écrite encore ce soir. D'où il vient de se faire vider comme un malpropre par le boss. Hein. Pêche. Voilà, création de production, on m'a dit qu'il y avait un jingle à faire.
Vider.
Voilà.
Vider comme un malpropre, c'est vrai qu'à la réflexion, ouais.
Ouais. Vider, ça marche aussi, non?
Là, je reprends mes esprits. Vider comme un malpropre, ça marche pas. C'est refusé.
Ah, vider, virer comme un malpropre.
Oui, c'est vider.
Voilà. Le VAR, c'est refusé.
Bon, merci les Chateaubriands.
Non.
Si vous voulez les jouer comme ça, les jingles, il n'y a pas de souci.
Il y a des grands anciens qui sont passés avant nous, qui nous ont imposé des expressions. On les respecte. Il n'y a pas de problème.
Écoutez, ça faisait longtemps que j'avais pas eu mon petit jingle. Elton Mokolo, Kevin Diaz, Jimmy Brand et vous qu'on attend nombreux au 32-16 dans Génération After qui revient dans quelques secondes à peine.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Simon Dutin.
Accompagné jusqu'à 22h par Jimmy Brown, Kevin Diaz, Elton Mokolo, Génération After, comme tous les soirs. Avant de passer la main à Nicolas Jamin qui officie à la place de Gilbert pour l'After. Damien Périnel, ancien copain de la maison, qui vient de quitter ses fonctions d'adjoint du côté de l'AS Monaco, invité de Nico. Tout comme Gilles Vessière, ancien arbitre international, qui publie un livre dans lequel il raconte évidemment beaucoup de truculents souvenirs de sa carrière d'arbitre international. L'after, 22h minuit. D'ici là, nous, on revient un petit peu sur la fin des festivités qui ont entouré le sacre du Paris Saint-Germain. Puisque cette saison de foot en club vient à peine de se terminer, qu'on se projette évidemment sur la suivante. Alors, c'est la Ligue des Champions qui nous intéresse ce soir. Ligue des Champions, où la saison prochaine, le PSG aura plus que jamais la cible sur le dos, dans le dos. Alors, après le back-to-back, j'ai bien aimé Gonzalo Ramos qui dit le back-to-back. C'était mignon, j'ai trouvé. Après le back-to-back, le club parisien visera le...
Tripit.
Le tripit, voilà.
Luis Campos, il a dit le back-to-back-to-back.
Le back-to-back-to-back.
C'est pas du tout ça.
Le tripit. Alors, dans l'histoire de la Coupe des clubs champions, puis Ligue des champions, combien de fois ça a été fait et par combien de clubs? J'aime bien les petits
trois fois. L'Oréal...
Le Real de
Milan
deux fois,
et l'Ajax.
Bayern et Ajax.
Oh là là, ils sont imprenables.
Après, sincèrement.
Le Real, 5 fois de suite, de 1956 à 1960, et 3 fois de suite de 2016 à 2018. L'Ajax, 1971-1973. Et le Bayern, en effet, 74-76. Bon, voilà, le PSG qui pourrait.
Il n'y a pas Liverpool aussi, non?
Non, Liverpool, non. C'est deux fois.
Deux fois.
Donc, okay. Le PSG qui pourrait quand même, entrer en. Très très bonne compagnie.
Ah bah là, tu peux dépoussiérer des records.
Ah bah ce serait.
Bon, même si t'as eu le Real Madrid de 2016 à 2018.
Déjà, voilà, puisque c'est la seule équipe à l'avoir fait version Ligue des Champions dans ce qu'on appelle l'ère moderne du football. Le PSG pourrait donc être la quatrième équipe de l'histoire à réaliser un tel exploit, et ça, Jimmy Brown y croit. Avis tranché.
J'ai appelé le Standard, et à l'époque, Max, c'était un peu comme une séance de psy, tu vois. J'ai appelé le 32-16, ça coûtait moins cher que d'aller chez le psy.
Excellent psy, Max. Hein.
C'est vrai. Ah ouais. C'était un autre temps, c'était quand je sortais du Parc des Princes au début des années 2010. On peut dire que c'était pas tout à fait la même époque.
Une belle qualité d'écoute, notre cher Max. Absolument. Qui vous attend au 32-16. Jimmy, on t'écoute. Le PSG, déjà favori, on peut déjà le.
Oui, moi je pense que pour plusieurs raisons, en fait. C'est la déclate d'Mbélé, elle m'a interpellé dans un premier temps. Et en fait, je saisis l'opportunité de cet avis aussi pour faire une espèce de mea culpa, parce que je vais être très honnête avec vous. Moi, je n'imaginais pas le PSG capable du back-to-back jusqu'à très tard dans la saison. Et ils ont prouvé, en fait, que Luis Enrique a prouvé encore une fois qu'il était, qu'il maîtrisait tous les paramètres. Et il y a plusieurs choses qui me font dire que le PSG est désormais favori, même pour la saison prochaine. C'est la jeunesse de l'effectif, c'est la première chose. C'est une équipe qui a moins de 25 ans de moyenne d'âge. J'ai vu que c'était la troisième équipe la plus jeune à avoir remporté la Ligue des Champions, derrière le PSG de la saison dernière et derrière l'Ajax de 95. Et on sait, Kevin connaît bien l'Ajax de 95, qui était une équipe extraordinaire, mais qui n'avait pas les moyens.
Edgar Davids, Clarence Seedorf, Freisinger. Voilà,
une équipe monstrueuse, mais qui n'avait pas les moyens à l'époque économiquement de pouvoir garder sa structure d'effectif. Le PSG, c'est un effectif jeune et un club qui a les moyens de garder ses joueurs les plus importants. Donc là, t'as eu cette année, tu t'es planté sur Chevalier, tu t'es planté sur Zabarni, on va dire les choses, les deux recrues importantes. Et malgré ça, t'as réussi à performer. Safonov a fait une Ligue des Champions tout à fait honorable. Il a réussi
Je te coupe. Safonov, il est. Enfin, je vais peut-être dire. Il s'est installé comme un des meilleurs gardiens d'Europe, non? Au bout d'un moment, il va falloir quand même le dire.
Sur la saison, il n'y a pas de débat.
C'est que c'est plus qu'une roue de secours qui a fait le boulot.
Clairement, il a pris la place, il a très bien pris, puisqu'il les a amenés jusque sur le toit de l'Europe. Donc, il n'y a pas de débat. Zabarni, tant bien que mal, il a fait ses matchs de championnat, mais on a réussi à avoir Marquinhos et à garder, en fait, le symbole aussi, c'est de réussir en finale à retrouver les 10 joueurs de champ que tu n'avais pas eu de la saison.
Hallucinant.
Sur la même équipe qui a battu l'Inter, qui avait écrasé l'Inter la saison d'avant. Donc voilà, c'est un effectif jeune qui va être amélioré, je pense, à la marge. Tu vas avoir, tu vas régénérer l'effectif avec quelques départs, probablement Barcola qui a envie de plus de temps de jeu, probablement Ramos également, mais qui seront remplacés. Tu as aussi un staff emmené par Luis Enrique, qui est probablement le meilleur entraîneur du monde actuellement, mais qui a un staff autour de lui. On n'en parle pas assez, je trouve, avec des universitaires. En fait, c'est des pointures, les mecs à tous les postes. Que ce soit Raphaël Paul, le préparateur physique, qui a réussi à gérer d'une main de maître, en fait, d'arriver à un pic de forme, là, au moment où il faut, etc.
Dans une saison qui était un peu casse-gueule, parce qu'on rappelle qu'il n'y a pas eu d'interruption. Et...
Un entraîneur des gardiens qui fait progresser aussi. Enfin, je veux dire, ils ont un staff, il y a une armée de mecs ultra compétents. Ça, c'est un deuxième deuxième point. Mon troisième point, c'est de dire que finalement, la concurrence, eh ben, je regarde dans les top clubs européens. Tu as qui aujourd'hui? Tu as le Real qui est en pleine reconstruction, que j'imagine pas sur la saison prochaine arriver. Tu as un Liverpool qui a beaucoup investi, mais qui là va changer de coach, donc il va falloir aussi que la mayonnaise prenne. Tu as le Barça qui a recruté là Anthony Gordon, mais je les vois toujours pas recruter de défenseurs au poste où ils sont. On verra d'ici le mercato d'été. Mais est-ce que Hansi Flick va réussir à changer sa philosophie, à être un peu moins dans la prise de risque et pouvoir être un rival sérieux en Ligue des Champions? Il y a le Bayern, t'as affronté une équipe moi cette année qui a été énorme, tu les as regardé les yeux dans les yeux, tu t'affrontes la meilleure équipe d'Europe pour moi, t'as réussi à les taper, tu leur as donné 5-4 à l'aller, tu vas faire un match exceptionnel à l'Allianz au retour. Cette équipe, elle a de telles certitudes, je n'arrive pas à envisager ce qui pourrait l'arrêter, honnêtement. Et on peut parler aussi des clubs de première ligue, tu as City, tu as Arsenal, etc. Mais je pense que la différence aussi, elle se fait. Et ça, c'est peut-être pas un point positif. J'ai envie de dire, moi, j'aurais envie que ça change, mais t'as une compétitivité en première ligue qui fait que les équipes qui sont concernées par la première ligue, elles auront toujours plus de difficultés, je pense, en Ligue des Champions face au PSG. Le PSG l'a prouvé, ils ont tarté tous les Anglais. Mais sauf que la PL n'aménage pas le calendrier comme le fait la Ligue 1, et je pense que le PSG, il y a aucune raison que ça change l'année prochaine. Ils auront les aménagements qu'il faut aussi. Donc voilà, je dis qu'il va falloir être très 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 fort pour sortir le PSG la saison prochaine et pour les empêcher d'accéder au triplé.
Le PSG d'ores et déjà favori à sa propre succession pour le three-peat en Ligue des Champions. C'est l'avis tranché de Jimmy Bond. On en parle dans Génération After avec Kevin et Elton. Qu'est-ce que cela vous inspire, messieurs?
Déjà, c'est un peu le thème de la soirée, puisqu'on en a.
Ah, je le voyais venir,
d'être très, très, très fort pour battre le PSG, ça, c'est pas une lapalissade, c'est sûr. Mais aujourd'hui, oui, moi, j'ai une question pour Jimmy, pour te dire la vérité, qui est quand même un supporter affirmé du Paris Saint-Germain.
Référence.
Je pense qu'on est assez proche, je voyais que tu croyais pas forcément au début de saison, et ça pas l'air d'être quelque chose qui était fin, c'est-à-dire qui était c'est pas du faux
simulé,
semblant
ouais.
Simulé, mais aujourd'hui est-ce que ça t'a, parce que beaucoup de supporters du Paris Saint-Germain ils ont dit, on a eu la Ligue des Champions, ça y est quoi, il peut rien nous arriver. Est-ce que cette deuxième, ça vous donne pas vraiment envie d'aller chercher la troisième aussi, et c'est un peu ton avis, parce que vous vous dites ça m'a aussi redonné presque l'envie là de rien
lâcher.
Mais
c'est vrai, tu as raison, il y a un truc comme ça, ouais, il y a un truc comme ça. Je pense qu'effectivement effectivement, maintenant tu passes dans une autre dimension, oui. et Simon en parlant dans l'introduction, tu veux marquer l'histoire en fait.
Exactement.
Tu te dis que tu as toutes les clés en main pour rentrer dans un quota des clubs.
Deux Ligue des Champions, c'est
oui,
rare.
Mais là c'est encore un autre step. Trois clubs qui l'ont fait. Ouais, voilà, tu veux faire partie de ces quatre-là.
Trois, c'est monstrueux. Et je suis complètement d'accord avec ça. Bon, moi j'ai cru en Luis Enrique dès le départ, hein, même si je ne savais pas qu'ils allaient gagner deux Ligue des Champions, ça je dois bien l'avouer. Mais aujourd'hui, ils ont tout. Ils ont les jeunes, et en plus, tu sais, souvent on dit Vitinha au Real, ou jouer en Neves au Real.
Personne veut partir en fait. T'as vu la fête après la victoire?
Ouais, j'ai pas l'impression que les mecs ils veuillent partir, et je comprendrais même pas que Barcola n'essaye pas d'aller gagner une troisième Ligue des Champions.
C'est même plus l'oseille, parce qu'en fait l'oseille tu l'as au PSG, mais c'est juste qu'à un moment donné t'as envie d'être plus protagoniste, t'as envie d'être titulaire. Là tu passes avec Vara, Dembélé, Doué, c'est dur.
Il a le droit de marquer l'occasion à la dernière minute aussi. D'éviter à tout le monde.
Ouais, alors j'ai beaucoup vu et entendu ça. Moi, j'ai tendance à toujours être indulgent quand tu fais un sprint de 80 mètres.
Je n'ai pas dit qu'on peut pas être indulgent.
Mais il avait la place de rentrer dans l'histoire sur cette finale, il l'a pas fait, c'est vrai.
Voilà, c'est vrai. C'est un peu Colomoigny en finale de Coupe du Monde.
C'est vrai.
Bah, il fait un beau geste, le gardien fait un arrêt. Mais non, mais je veux dire.
Oui, c'est ça, oui.
Non, mais bon, ça se finit au pénalty, donc ouais. Ça peut être d'un côté ou de l'autre. Je vais pas te dire que c'est la loterie, mais ça ne l'est pas, mais voilà. Mais moi, j'étais persuadé que le PSG gagnerait les pénaltys, en fait.
Il a pas perdu une séance de tir au but depuis qu'il est arrivé. C'est monstrueux,
c'est
en fait.
C'est
monstrueux comment ils ont réussi à changer, à inverser cet aspect mental.
Je l'ai vu un peu blanc. Je me suis dit, il peut nous faire une balerdie.
Beraldo, c'était du 100%. Avec ce qu'il nous a montré au milieu de terrain, moi, dans les matchs de Ligue 1 qu'il a disputé en sentinelle,
je suis d'accord avec toi sur la dimension qu'il a pris le milieu, etc. Mais avoir le cran d'aller tirer le tir au but. Le cinquième, tu as Nuno qui a raté avant toi et tout. Franchement, à tous les niveaux, ils sont impressionnants.
Je sais pas pourquoi.
Et deux trentenaires dans l'équipe. Deux trentenaires. Fabien Ruiz qui vient d'avoir 30 piges et Marquinhos qui a 32 ans. Que moi, je pense qu'il faut continuer, il faut garder la saison prochaine. Mais tu dois quand même améliorer ce poste-là.
Justement,
c'est jeune, quoi.
Elton, Kevin, sur ce que dit Jimmy, est-ce que vous pensez pensez que cette fois-ci, il serait nécessaire juste de rafraîchir un petit peu cet effectif je sais pas, à la marge? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est indispensable?
Non, mais par rapport à l'avis global de Jimmy, je suis d'accord. Moi, j'ai la règle des 3C qui donne plus de crédit au fait que le PSG pourrait être à Madrid en mai prochain. C'est 1, la compétitivité. On oublie de préciser que le PSG a joué 46 des 47 sur 47 matchs possibles depuis l'arrivée de Luis Enrique en Ligue des Champions. Ils ont loupé un match.
C'était la finale de 2024.
Donc 46 matchs, c'est un volet qui est colossal. Ça veut dire que t'as voyagé, t'as joué contre quasiment toute l'élite du football européen, contre d'autres équipes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la créativité. Sur une deuxième saison où le PSG avait des contraintes, notamment par rapport à la notion de préparation physique, par rapport à la saison post-triplé qui s'est transformée en sextuplé, il y a eu cette créativité, notamment pour concerner tout un groupe et donner du galon à des joueurs que t'as permis de relancer. Je fais référence bien évidemment à Zaïre Emery, à Safonov qui est devenu numéro 1. Et le troisième point, ce qui va amener notamment ma réponse pour ta question, c'est la concurrence. Concurrence interne à travers des joueurs qui pourraient redistribuer les cartes dans l'effectif du PSG, ou concurrence externe à travers le recrutement. Et sur le recrutement, moi j'importerais Robot. Faut toujours plus de qualité plutôt que de la quantité, parce que tu t'appuies sur un groupe qui est restreint, mais cette qualité, il faut des joueurs qui puissent être en mesure de challenger les joueurs qui sont déjà présents, en sachant que, comme l'a dit Luis Enrique, c'est très difficile de challenger les joueurs qui sont présents. On peut faire une analogie avec les joueurs du Real entre 2016 et 2018. Tu t'aperçois que c'était très difficile pour les recrues extérieures d'arriver et de bouger les joueurs en place.
Et puis c'était à la marge. Les ajustements entre 2016 et 2018, c'est quasiment la même équipe qui la remporte trois fois de suite, le Real.
Donc c'est pour ça que pour moi, ça est très important, notamment sur la notion de concurrence externe à travers le recrutement, des joueurs qui sont en possibilité d'être polyvalents et d'avoir l'esprit ouvert pour digérer tous les préceptes footballistiques de Luis Enrique.
Kevin, ton avis là-dessus?
Oui, non, mais ce que je disais, il n'y a pas de souci. Moi, honnêtement, je pensais qu'ils devaient recruter l'été dernier. Bon, j'aurais dit deux joueurs comme ça, deux, trois joueurs.
Maintenant, mais c'est ça, moi, le premier, tu vois, le poste de latéral droit, toute la saison, je me suis dit, ouais, ils vont le traîner, ce truc-là, etc. Ils te sortent Zaïre Emery qui est monstrueux. Faites tous les paris, ils sont gagnants, tu peux rien dire, tu peux que t'incliner, en fait.
Ouais, c'est clair.
Tu dis bravo, merci, il n'y a rien à dire.
Il faudrait quoi, concrètement? Il faudrait un latéral gauche, éventuellement,
si tu perds, en fait.
Il faut un central.
Il faut un central, je pense.
Je pense qu'il faut un central.
Il va falloir remplacer numériquement Ramos et ou parce que
Ramos, tu le remplaces par qui si jamais il s'en va? Parce que tu vas lui dire.
Moi, c'est Eli Kropijer.
Il nous faut un mec. 100% pareil.
Ouais, mais tu vas dire Ramos, donc tu vas le vendre à une équipe qui joue avec un vrai avant-centre.
Tu vas le vendre à Bournemouth, Ramos.
Comment tu vas convaincre un joueur
junior, il va venir, il va possiblement gagner une Ligue des Champions, donc déjà il y a pas.
D'accord, mais pour jouer 5 000, il va se contenter de.
Tu vois comment il fonctionne. Il va faire un petit palmarès
en Ligue 1.
Non mais après attention, la perspective pour parler d'Eli Kroupi, on parle d'un joueur qui a été majeur dans le parcours de Bournemouth, qui a terminé 6e dans l'univers de la première ligue.
On parle du Paris Saint-Germain.
C'est le seul club qui peut concurrencer, je pense, la première ligue.
Déjà minimum. Mais attention, il y a le palmarès, les gars. Déjà, tu viens au PSG, tu vas prendre une Ligue 1. Ou 2 ou 3 ou 4. Ça, c'est clair, déjà. Après, t'as possiblement une Ligue des Champions, voire 2, si tu restes 2-3 ans.
En tout cas, t'es contender. T'es candidat à la victoire finale en Ligue des Champions.
D'accord, mais avec cette logique, Jimmy, Gonçalo Ramos, il pourrait se contenter de ce qu'il a à Paris plutôt que d'aller être.
Mais Gonçalo Ramos, je suis pas objectif avec Ramos. Il l'a vécu, à un moment donné, quand tu le vis 3-4 ans, comme Barcola et lui l'ont fait, à un moment donné, t'es lassé, tu te dis, j'ai pas réussi à gagner ma place, tu vois le plafond de verre. Après, Kroupi, il arrive. Je pense pas qu'ils se disent si tant est qu'ils viennent. Ouais, je vais m'asseoir sur le banc, je vais les regarder, machin. Il y a une concurrence, il va pas. Tu vois, s'il est pas dit que l'année prochaine, il retouche pas à son 11, etc.
Et tu penses que Kroupi peut arriver à Paris en se disant, je vais mettre Dembélé ou Doué ou Kvara sur le banc?
En tout cas, il doit avoir cette ambition-là.
Bien sûr. Aujourd'hui, ce qu'il fait en première ligue, ce qu'il a déjà fait en France, c'est quand même très prometteur. Si tu veux atteindre l'équipe de France, quoi de mieux que le Paris Saint-Germain? Donc,
rappelle-toi que Dembélé cette saison, il l'a démarre quasiment en janvier, février, tu vois. On va sortir d'une Coupe du Monde, les organismes vont être ultra sollicités, on voit les fragilités que peut avoir un Dembélé. Je pense que t'auras du temps de jeu, t'auras des coups à jouer.
Et surtout, il y a un point qui est très important, s'il y a bien un entraîneur qui est pas dans le conformisme, qui est pas dans l'immobilisme par rapport à son 11 de départ, c'est Luis Enrique. Ouais. Luis Enrique, parce qu'on a mis en avant Gvaracheia, mais à un moment donné, il est passé par le banc. Il a été tensé. Il a été recadré plutôt en interne. Donc, il faut gagner sa place. Il y a rien de définitif, il y a rien d'acquis dans ce PSG, et c'est ce qui lui permet, année après année, saison après saison, de s'améliorer et d'être une équipe encore plus compétitive, parce que je suis convaincu que le PSG sera encore plus compétitif sur la saison 2026-2027. Mais est-ce que ça va te garantir une Ligue des Champions? Là, c'est une autre question, parce que tu as des variables que tu peux pas maîtriser, parce que c'est le football.
D'accord, donc vous, scout PSG, c'est Élie Croupy Junior. Hein. On parle plus de Julian Alvarez, on parle plus de d'autres candidats comme ça.
Au-delà de l'identité.
On prend un jeune aux dents longues et avec
au-delà de l'identité du joueur, un joueur qui vient qui soit là pour apprendre justement, pour apprendre un nouveau football, pour être polyvalent, parce qu'il va y avoir des spots dans un effectif court et restreint.
Bon, voilà, petits ajustements, c'est le problème de riches. Hein,
plus qualité que quantité, c'est le maître mot.
Et là, on est évidemment d'accord, je crois que c'est ce que pensent évidemment Luis Campos et Luis Enrique. Et petit détour par Roland Garros, est-ce qu'il y a plus de qualité ou de quantité, mon cher Eric?
Il y a de la qualité, surtout chez Jakub Mencić, puisque il est en train de marcher sur Fonseca. J'ai pas peur des mots, hein. 6-4, 4-3 avec un break dans le deuxième set pour ce Tchèque qui est en train d'écraser la balle. L'état des balles après 9 jeux, ça doit être terrible. Hein. Même mon chien n'en voudrait pas. Ça tombe bien, j'en ai pas. Mais quand même, non, il est impressionnant de puissance. Est-ce qu'il va pouvoir maintenir cette cadence? C'est la grande question. Mais pour l'instant, Fonseca, il trouve pas de solution. Il trouve pas de solution. Voilà, il est dominé. 6-4, 5-3 désormais.
Bon, eh ben voilà, peut-être une sensation, hein, ce soir en Night Session à Roland Garros, où le jeune João Fonseca était annoncé comme favori. Sa cote devrait encore augmenter, hein, s'il perd la deuxième manche. Affaire à suivre avec toi tout à l'heure. Eric, nous on va essayer de maintenir la cadence durant le dernier quart d'heure de Génération After. On va parler mercato, les gars, c'est aussi ça qui fait qu'on aime les intersaisons. Mercato avec une info Ligue 1, elle est confirmée, on en parle dans un instant. Avec Elton, avec Jimmy, avec Kevin et vous, évidemment, vous ne bougez pas.
RMC, 20h-22h, Génération After,
Simon Dutin.
La dernière ligne droite de Génération After en ce mardi 2 juin, accompagné toujours par Kevin Diaz, Elton Mokolo, Jimmy Brown, avant de passer la main à Nicolas Jamin qui prendra les platines du studio RMC pour l'After de 22h à minuit. À plusieurs invités, Damien Périnel, un ancien ami de la maison qui vient de quitter ses fonctions d'adjoint du côté de l'AS Monaco. Et Gilles Vestière, ancien arbitre international qui sort un ouvrage dans lequel il revient sur sa riche et passionnante carrière. Beaucoup de souvenirs à évoquer, beaucoup de questions à lui poser pour Florent Gautreau, Daniel Riolo et Nicolas Jamin. L'after donc 22h minuit. Nous, avant ça, vous savez que c'est ce qui rend, je le disais avant la coupure, les intersaisons excitantes. Le mercato, évidemment, on adore ça. Les premières infos qui commencent à tomber, on sait qu'en année de Coupe du Monde, il y a certains dossiers qui se règlent plus rapidement que d'ordinaire, même si le premier qu'on va évoquer ne concerne pas un joueur sélectionné pour le Mondial. Mais tout de même, les gars, un des plus grands attaquants de l'histoire du football français.
Yes, he's a Giroud.
Légendaire, Olivier Giroud, légendaire supporter de l'équipe de France, immortalisé par ce petit jingle. Olivier Giroud, les gars, Olivier Létang, le président du LOSC, le révélait hier dans l'After. Les discussions sont entamées et se passent bien entre le LOSC et l'attaquant français qui fêtera ses 40 ans en septembre prochain. Olivier Giroud qui devrait donc prolonger son séjour d'une saison du côté de Lille. Giroud, meilleur buteur lillois cette saison, 11 buts, 7 en Ligue 1, 4 en Ligue Europa. Alors il avait démarré très très fort la saison, il y a eu un petit creux.
Après le match de Saint-Maur en Coupe de France, ça a été plus dur.
Et oui, c'est
forcément.
Il s'est heurté à la meilleure défense de France.
Vous lui avez marché dessus, évidemment.
C'est compliqué.
Sur le principe, j'ai dit devrait prolonger. On attend qu'un accord soit trouvé, officialisé. Est-ce que sur le principe, vous mettez à la place d'un supporter lillois, c'est une bonne idée? Bonne idée pour le LOSC.
Je suis pas persuadé. D'ailleurs, je trouve que c'est une solution de facilité par rapport à sa réalité contractuelle. Te dire, je vais donner un an de plus à Giroud en oubliant le contexte offensif du LOSC sur la saison de Ligue 1. Je rappelle, Lille, 8e attaque de Ligue 1 avec seulement 52 buts. Moi, j'aurais pensé, j'aurais espéré qu'il y ait une marge de progression dans ce secteur offensif où tu as eu beaucoup de difficultés. Alors, bien évidemment, tu as eu des blessures.
C'est pour ça que je te rejoins pas, parce que pour moi, ça va être Igaman titulaire. Et si tu prends Giroud remplaçant, il a joué beaucoup plus que prévu.
Mais attention, justement, Igaman, pour l'instant, il n'est pas arrivé. Moi, je m'attends à une saison 2026-2027 où il faut qu'il revienne progressivement. Moi, je voulais avoir un joueur qui soit à minima plus compétitif. Et moi, je me dis que le LOSC est qualifié en Ligue des Champions. T'es un club qui est bien géré. C'est le moment de mettre en valeur justement tout ce que t'as capitalisé pour aller chercher notamment une autre solution offensive qui incarne beaucoup plus à la fois et l'avenir et le présent dans un profil qui peut se rapprocher de celui d'Olivier Giroud.
Bon, moi je pense que là, on a tranché là de Elton Mokolo.
Non, parce que t'as Fernandez Pardo qui est déjà là.
Oui, mais moi je me dis, oui, mais option, on sait qu'il veut jouer neuf, mais est-ce que c'est là qu'il est le plus efficace?
Après, on va voir l'arrivée déjà de David Ancelotti au rebat les cartes, pardon, parce qu'on ne sait pas comment il va jouer, est-ce qu'il va garder le même système que Genesio ou pas. Après, moi je pense que Giroud, pour encadrer le groupe, il en parlait très bien hier, Olivier Létang, sur l'importance d'avoir des joueurs d'expérience pour encadrer la jeunesse. Je pense qu'il a fait preuve d'une exemplarité, d'un professionnalisme tout au long de la saison. C'est pas anodin ce que dit Kevin quand même. Tu te disais pas sur le papier qu'un champion du monde, il allait se taper le 32e de Coupe de France à Saint-Maur. Voilà, il a jamais rechigné. Olivier Giroud, c'est un vrai pro.
Il y a ce qu'il apporte aussi.
Il y a un super état d'esprit. Il y a tout ce qu'il apporte en dehors du terrain. Alors, l'imaginer refaire la même saison que cette année, certainement pas, parce qu'il a beaucoup trop joué par rapport à son âge, par rapport à sa condition.
Il va y avoir la même problématique, du coup.
Non, parce que moi, je pense que tu peux prendre un profil jeune, tu peux prendre un autre joueur en gardant Giroud.
Je pense qu'ils vont pas prendre d'autres attaquants.
Et que ça va. Si, parce que t'as une Ligue des Champions quand même, tu le disais. C'est pas parce que tu donnes un an de plus à Giroud.
Donc tu penses qu'il porte avec 4 attaquants sur la saison?
Je pense que oui. Et je pense que Fernandez Pardo, il va peut-être retourner jouer couloir par moment, qu'ils vont peut-être jouer à 2 pointes.
Ils vont peut-être le vendre 100 millions s'il fait une bonne Coupe du Monde.
C'est pas impossible. Enfin voilà, je veux dire, oui, il y a aussi ça. Le président Létang nous en parlait hier. Si t'as une offre exceptionnelle qui arrive pour un joueur, Fernandez Pardo, s'il sort une grosse Coupe du Monde, on n'est pas à l'abri que ça tombe aussi en première ligue, tu vois.
Tout peut arriver dans le football.
Oui.
Paraphrase évidemment.
Olivier Giroud, oui, avec plaisir. Moi, je l'ai vu justement à Saint-Maur. C'est monstrueux. Il a sa sécurité uniquement pour lui. Faut le savoir quasiment, parce que aujourd'hui, tout le monde veut un autographe, tout le monde veut une photo. C'est un gars qui est super cool, qui est très avenant. C'est un peu l'image du club. Et moi, pour avoir parlé un petit peu avec notamment ceux qui gèrent la sécurité au LOSC, moi, il m'avait dit que depuis qu'il est au club, ils sont passés dans une autre dimension. Alors que ce n'est que Olivier Giroud en toute fin de carrière. Et faut savoir que, par exemple, moi, ce qu'on m'avait expliqué, j'avais trouvé ça sympa à savoir, c'est que depuis qu'il est là, il y a beaucoup d'endroits où ils vont, où il y a des supporters qui les attendent à la sortie des hôtels. Notamment parce qu'il y a Olivier Giroud. Donc, ça fait aussi partie quand même de l'image d'un club. Tu vas aller en Ligue des Champions.
C'était une énorme réussite. Dans tous les stades de France, il a été
ovationné. Ce qui est bien avec Jimmy et Kevin, c'est que je suis passé de 2 émissions, c'est-à-dire Pascal le grand frère et Star à domicile. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le terrain quand on parle d'Olivier Giroud. Moi, c'est ce qui va m'apporter plus-value sur le terrain.
C'est là où ta génération, elle doit progresser là-dessus. Le football, ce n'est pas que le rectangle vert, cher ami. Le football, c'est toute une image. Le football, c'est une marque. Aujourd'hui, la marque LOSC, elle a plus de valeur avec Olivier Giroud que sans Olivier Giroud. Surtout qu'il a été compétitif, qu'il a été performant et qu'il peut encore rendre des services dans une Ligue 1. Dans une Ligue 1 où les stars ne sont plus là parce qu'il n'y a plus d'oseille. Un ancien champion du monde comme lui, comme ils avaient tenté le coup avec Umtiti, qui malheureusement a eu des soucis physiques, mais sinon, voilà, c'est des choses.
Moi, ma priorité, c'est le LOSC qui progresse sur la saison 2026-2027.
On est dans l'irrationnel.
Du rationnel. Et on a un président qui est justement censé être rationnel. Et moi, je vois un LOSC qui progresse. Est-ce qu'Olivier Giroud, c'est l'homme le plus à même à faire progresser le LOSC offensivement? Je n'en suis pas persuadé.
Il n'est pas là pour faire progresser. Il est là pour accompagner.
Accompagner. Moi, je veux pas de l'accompagnement. Je veux de la qualité.
On est là pour t'accompagner, Olivier.
Je veux de la qualité, moi.
Bon, en tout cas, Kevin et Jimmy ont l'air d'être dans le bus ou dans le train. Olivier Giroud.
Eux sont dans le storytelling, on a bien compris.
Et pas toi. Il était numéro 9 de l'équipe qui s'est qualifiée en Ligue des Champions, ils ont fini 3ème, et il est en train de nous expliquer que c'est une pipe.
Non, j'ai pas dit ça. C'est que tu m'approfies sa fin de contrat pour changer autre chose.
En tout cas, rien n'est encore officiel et on suivra ça, évidemment, rapidement. Eric Salio. Ça va mal pour le jeune Fonseca, Roland Garros.
Ah, ça va très très mal. Ça va très très mal. 6-4, 6-3. Pour Jakub Mencik, vraiment impressionnant. Il est chaud, comme on dit. Hein. Tout lui réussit. Il frappe très fort. Trois volets amortis absolument subtils. Je suis sous le charme du personnage. C'est du brutal.
On l'adore.
Mais il n'y a pas que du brutal. 2-7-0, Fonseca doit faire une troisième remontada depuis le début de ce Roland. Mais celle-là, je suis pas sûr qu'il puisse la faire. Hein.
Voilà, l'hommage de Eric Salio, le cinéphile. Le dénouement de cette rencontre entre le jeune Brésilien Fonseca et le Tchèque Mencik, c'est à suivre dans l'After, en compagnie de Nicolas Jamin, à qui je cède ma place dans le studio. Merci Kevin, merci Jimmy, merci Elsa.
Salut tout le monde.
Merci à plaisir. Vous, les auditrices, les auditeurs.
Salut à tous.
Merci
à vous.
Sur RMC, le sport, l'info, le débat ne s'arrête jamais. Salut.
Génération After.